Maurice Leblanc, Voici des ailes. Chapitre 1, La religion nouvelle. Ils firent tous quatre, les uns derrière les autres, un large et prudent virage, ralentirent sur le gravier du jardin, et tendant la jambe, se laissèrent tomber de côté. Accrus à hâte, des grooms et des valets de pied, couleur mastic, saisirent les machines. « Oh, ne perdons pas de temps !» s'écria Guillaume d'Argel, « je meurs de faim !» Les deux dames gagnèrent le pavillon réservé aux membres féminins du cercle. Guillaume, après avoir commandé le déjeuner, emmena Pascal Fauvière jusqu'au garage où l'on remisait les bicyclettes. Il y avait là, rangés systématiquement comme des chevaux à l'écurie, une trentaine de ces petites bêtes nerveuses, toutes semblables en apparence et toutes cependant si différentes les unes des autres, chacune ayant sa vie propre, sa personnalité, sa vertu invisible et son invisible tare. Campés devant elle, il les examinait aussi avec les regards et les gestes d'amateurs qui en arrêt devant un cheval l'étudie solennellement, dessine dans l'air avec le doigt l'élégante croupe et palpe le boulet comme s'il lui tâtait le pouls. Eux, ils exaltaient l'étroitesse des pédaliers, la rigidité des cadres, l'aspect à la fois lourd et léger des gros tubes. Les mots techniques abondaient. Ils arrivèrent à leur machine. Guillaume souleva la sienne comme on soulève un petit paquet de plumes. « Combien pèse-t-elle ? » s'enquit Pascal. « Oh, 9 300 !» répondit orgueilleusement Guillaume. Reposant à terre la roue directrice et se tenant sur une jambe, il actionna la pédale. Après un mouvement de rotation précipité, la vitesse s'atténua peu à peu, les mailles de la chaîne se distinguèrent, l'élan s'en allait en mourant, agonisait, expira. Soudain, la roue revint sur elle-même, fit quelques tours, s'arrêta de nouveau, et cela se reproduisit en décroissant une troisième et une quatrième fois. Alors Guillaume assiégea Pascal d'un regard si interrogateur que l'autre dut s'exécuter. « C'est admirable comme roulement !»« Merveilleux !» renchérit Guillaume. Fauvière éprouva sur le champ le besoin de formuler une critique. « Vous savez, c'est pas séduisant, votre nouvelle position. L'année dernière, vous étiez plié en deux, la tête entre les genoux, comme l'homme caoutchouc. Maintenant, vous marchez avec un guidon à l'américaine, le buste tout droit, en arrière même, les mains à hauteur des yeux. On a l'air de conduire un trotteur, ou bien de se tenir gravement aux cornes d'une vache. « Mon cher, répliqua d'Argel, j'ai reconnu cette vérité. » Il faut voir la position rationnelle. Or, sur la grande route, en excursion, la position rationnelle, c'est d'être courbé. Ici, au bois, c'est d'être assis confortablement. Et puis, il faut réagir contre les scorchères. Par protestation aussi contre les tenues lâchées, il portait un pantalon simplement relevé sur les bottines, une chemise de toile blanche et un col impitoyable. Cette correction lui permettait en outre de masquer des mollets trop grêles et une poitrine un peu exiguë, défaut qui le navrait dans son amour-propre de sportsman bien entraîné. La culotte, au contraire, les bas de laine, l'absent de gilet et la chemise de batiste qui se colle au torse, accusaient davantage la musculature puissante de Pascal. Ils continuèrent leur inspection. « Comme c'est joli tout de même, cet instrument !» s'exclama Pascal. « Tiens, tiens !» fit Guillaume. « Vous qui trouviez cela si laid il y a quelques années ?»« Oui, je trouvais cela très laid, je crois que j'avais raison à cette époque-là. Les proportions manquaient de justesse, sans doute. L'instrument n'était pas strictement conforme à son usage. » Il objetait à une position vilaine, Le guidon était immense, la tige de sel démesurée. On sentait l'hésitation, l'ébauche, le monstre. Oh, tout cela s'est amélioré. La place des pédales indique l'effort vertical des jambes. Les proportions sont exactes et vraiment, il y a de la beauté dans ces lignes droites. Une beauté simple, sobre, précise. De la beauté, objecta Guillaume un peu sceptique. Pourquoi pas, la beauté d'une chose ne s'établit pas immédiatement. Elle naît d'abord de l'idée que cette chose s'adapte aussi parfaitement que possible à son but, puis de comparaison, de souvenir, jusqu'au jour où il apparaît une sorte de type idéal qui réunit toutes les conditions reconnues indispensables. Je crois qu'ici, ce jour approche. Une esthétique commence à se dégager. C'est un plaisir d'art réel, une émotion neuve, que de contempler ces jolies bêtes de course dont tous les détails indiquent la double destinée. Y a-t-il rien qui équivoque plus l'idée de vitesse que ces deux roues égales aux rayons ténus et vibrants comme des nerfs? Deux jambes sans commencement ni fin. Y a-t-il rien qui soit plus stable, plus solide d'aspect que ces reins d'acier, que cette échine rigoureuse, que tout cet appareil de muscles logiques et nécessaires? De cette double réalisation émane une harmonie extrême, une grâce faite de force et de légèreté, et je l'affirme, une beauté spéciale, indiscutable, dont les lois pourraient s'exprimer déjà. Guillaume n'écoutait plus. Son ami s'oubliait ainsi parfois en des dissertations qui avaient le don de l'ennuyer profondément. Il avait pris le parti de n'y jamais répondre. Leurs femmes les rejoignirent. Elles portaient toutes deux des jupes de drap noir, courtes et sans ampleur. Le veston droit, en piqué blanc, de Régine Fauvière, convenait à ses allures de jeune garçon. Un boléro souple, ouvert sur un devant de mousseline, mettait en valeur le buste plus mûr de Madeleine d'Arjols. L'autre façade de la villa donne sur un jardin ombreux et discret, où l'on déjeune à l'abri des regards. Sept ou huit tables étaient occupées. Après quelques poignées de main, ils s'assirent. Il faisait un temps charmant. Au-dessus des têtes, la brise remuait les feuilles comme des éventails, avec un frissonnement de soie froissée. Le soleil ne perçait le voile des branches que pour jeter sur la pelouse de la lumière joyeuse et changeante. Une gaieté se dégageait de tous ces gens réunis au bon air, arrivés là par leur propre énergie, et qui gardaient cette sorte d'orgueil vague de ceux qui viennent d'accomplir une prouesse, si mince soit-elle. Les femmes surtout étaient fort satisfaites d'elles-mêmes, et l'on mangeait comme s'il recevait une récompense bien méritée après tant d'efforts. Le lever matinal, la traversée de Paris en fiacre, les 3 kilomètres de bois dévorés en quelques minutes. Guillaume formula ce bonheur de vivre. Assouvir la faim que l'on a gagnée par la force de ses jarrets. Oh, je ne connais rien d'aussi délicieux. Pascal approuva de la tête. Il parlait peu en général. Sa femme disait de lui que c'était un rêveur, ce dont il se défendait comme d'une injure. Qu'était-il en réalité? Les notions contradictoires que l'on eût acquises à le fréquenter n'auraient à vous dire qu'un jugement assez confus. Lui-même, s'il avait dû se définir, eût été fort embarrassé tant il sentait par instinct d'opposition entre sa manière de vivre et certaines tendances obscures qu'il ne comprenait pas et refoulait implacablement. Ainsi, cette humeur taciturne cédait-elle à des explosions de paroles qui, à la grande surprise de Régine, éclataient subitement, sans qu'il pût jamais en discerner la raison. Il s'enfermait souvent des journées à ne rien faire, ou encore il se jetait sur les livres dont il se lassait au bout de quelques pages. De tout cela, il était gêné. Aussi s'appliquait-il à agir comme tout le monde, à s'amuser comme les autres, et à se désintéresser comme eux. Il n'y parvenait guère. Il donnait à ses amis l'impression déconcertante, de heurter, l'impression d'un être qui n'est jamais à sa place. En compagnie d'artistes, il se taisait. Parmi les mondains, au contraire, il lui échappait de ses théories d'art, de ses considérations, dont Guillaume avait horreur, mais qui parfois portaient la marque d'un esprit attentif et curieux. Sa femme, elle, était tout en dehors, alerte, bavarde, étourdie. Sur son joli visage mobile, à cheveux noirs et rebelles, se jouait un rire frais qui courait des yeux bleus aux lèvres rouges, éclairait les dents, secouait les narines, et aux rares minutes de repos, se cachait dans le refuge d'innombrables fossettes d'où il semblait guetter la première occasion favorable pour jaillir. Ses yeux avaient l'air de regarder 20 choses à la fois, tant il regardait vite. Cependant, il s'attachait aux hommes avec complaisance, souvent avec coquetterie. En ce moment même, elle s'inquiétait fort d'un monsieur placé non loin d'elle et dont le monocle la fascinait. Pascal s'impatienta. « Alors, Régine, as-tu bientôt fini de te retourner ?»« Ah, Madeleine !» soupira-t-elle. « As-tu de la chance d'avoir un mari pas jaloux, toi ?» Madame d'Argol sourit. « Oh, il a bien autre chose à faire, ce pauvre Guillaume !» De fait, c'était un fidèle des coulisses de théâtre et des boudoirs d'accès facile. Après une année de mariage où l'intimité des deux époux avait abouti à un désaccord physique irrémédiable, il s'était abandonné à sa nature de viveur, fréquentant les filles et ne se gênant pas pour afficher certaines de ses maîtresses. Dès lors, les hommes assiégèrent Madeleine. Par revanche d'abord, par désœuvrement ensuite, et par habitude, elle accueillit leurs hommages. Et bien que nul ne pût encore se vanter de la moindre faveur, il y avait constamment autour d'elle une demi-douzaine de prétendants, attirés par sa beauté claire et douce, par la grâce de sa taille, par le plaisir manifeste qu'elle prenait d'être courtisée. Guillaume affectait à cet égard la plus grande indépendance d'esprit. Il en tenait toujours prête une nouvelle preuve, et cette fois il dit ben, « Figurez-vous qu'au bal, hier, je me suis présenté à ma femme par un monsieur que je ne connaissais pas. Dame, il me parlait d'elle dans des termes si élogieux et d'une façon si intime. Alors je lui ai donné un nom quelconque. Ah, sa tête quand il vous a vu partir ensemble, Madeleine et moi. » En réalité, ils formaient deux bons ménages, l'un plus agité à cause des gamineries de Régine et du penchant de Pascal à la jalousie, l'autre que rendait plus paisible l'indifférence de Guillaume et la nature équilibrée de Madeleine. On se connaissait par les femmes. Amies de pension, elles s'étaient mariées à la même époque, 5 ans auparavant. Depuis, on le voyait beaucoup moins chez soi, pourtant qu'en partie commune dans le monde, ainsi qu'au théâtre et au cabaret. Le repas touchait à sa fin. Les hommes parlèrent bicyclette, et Pascal reprit sa théorie d'esthétique. « Oui, ce qui fait la beauté de la bicyclette, c'est sa sincérité. Elle ne cache rien, ses mouvements sont apparents. L'effort chez elle se voit et se comprend. Elle proclame son but, elle dit qu'elle veut aller vite, silencieusement et légèrement. Pourquoi la voiture automobile est-elle si vilaine et nous inspire-t-elle un sentiment de malaise? Parce qu'elle dissimule ses organes comme une honte. On ne sait pas ce qu'elle veut, elle semble inachevée. On attend quelque chose. Elle a l'air d'être faite pour porter, donc pour avancer. Regardez une locomotive, au contraire. Comme c'est beau, ces muscles de fer qui se tendent et se détendent, et ces bras qui agissent, et ces jambes qui s'efforcent. Tout cet organisme puissant et noble, cette poitrine large, cette respiration ardente, ce souffle visible. Mais Guillaume engagea une discussion sur la position du pied. Fouvière n'y attachait aucune importance. D'Argel, le plus compétent, s'écria. « Mais c'est une erreur, mon cher. Le pied a son rôle, son devoir. Il faut qu'il devienne une sorte de main qui ramène la pédale et l'excite à remonter. Il y a là un principe actif que l'on doit utiliser. » Et sa main, courbée en coup de cygne, décomposait le mécanisme du mouvement. Il conclut. « D'ailleurs, c'est ce que les Anglais, nos maîtres en la matière de sport, appellent l'ankle play. » Madeleine déplora le costume féminin. Elle trouvait sur la machine l'effet de la jupe disgracieux. « Ainsi, interrogea son ami, pas de jupe parce que c'est laid, pas de culotte parce que c'est mal porté, pas de jupe-culotte parce que c'est incommode. Alors quoi, Pascal, que dirais-tu du maillot ?» Mais D'Argel tenait Pascal avec la question du frein. « Le frein inutile, oui, on s'en est moqué. Et puis on est forcé d'y revenir. Demandez à tous les gens sérieux. Tenez Dupont, le coureur sur route. Dupont se sert du frein. » L'autorité de ce nom dompta Favière. Il acquiesça dès lors à toutes les idées de Guillaume sur la position en selle, sur la multiplication, sur la longueur des manivelles. Leur sympathie s'en fortifia, stimulée par le café et les cigares. « Voyons, est-ce à toi ou à moi qu'il en a, ce monsieur ?» demanda Régine, penchée à l'oreille de Madeleine. Elles causèrent à voix basse. Les repas se terminaient généralement ainsi, en aparté, en bavardage nonchalant. Réunis, ils se sentaient toujours à l'aise, bien qu'au fond, et malgré leur intimité, ils ne connussent peu. Jamais D'Argel ne s'étant soucié de Régine Favière, pas plus que celle-ci ne s'occupait de lui et que les deux autres ne l'intéressaient l'un à l'autre. Mais ils étaient du même monde, ils avaient les mêmes distractions et les mêmes habitudes. Ils ne doutaient pas qu'ils eussent les mêmes goûts et les mêmes pensées. Ils les avaient d'ailleurs, ayant ce que le monde impose. Il y a des obédiences nécessaires, des plaisirs indispensables, des spectacles obligatoires. Et ils obéissaient à tout cela en bons enfants soumis, en êtres anonymes, élégants, frivoles, qui ont la moisive et le cœur endormi. Inféodés à la mode, ils faisaient de l'exercice par mode, aussi bien qu'ils fussent demeurés au lit jusqu'au soir, si la mode l'eût exigé. Peut-être ce joug convenait-il à leur nature. Peut-être l'un d'eux devait-il réfréner d'obscurs appétits et des tendances contraires fort violentes. Il n'en savait rien. Il ne se singularisait que par de petites manies ou de menues originalités. Les différences essentielles et fatales qui séparent les individus demeuraient invisibles. Cependant, les convives s'agitaient. On formait des groupes dans l'allée touffue qui termine le jardin. Deux dames jouaient au tonneau. Des jeunes gens disputaient un match de lenteur autour de la pelouse. « J'ai une idée !» s'écria soudain Guillaume. « Ah, fit-on laquelle ?»« Mais voici, nous retrouvons la semaine prochaine à Dieppe, n'est-ce pas ? Eh bien, pourquoi n'irions-nous pas à bicyclette ?» Ils se récrièrent, c'était tout un voyage, très fatigant. Il insista. « Bon, nous prendrions le train jusqu'à Rouen, et de là à Dieppe, ce n'est rien. Et puis quoi, on mettrait deux jours, trois jours s'il le faut. » Régine objecta la question des toilettes, du linge. Madeleine murmura. Tous les quatre, comme ça, sans personne d'autre? Ben, vite que tu veux, répondit l'argent. Tout est flotte, si ça te plaît, on n'est jamais trop. Quant aux valises, vous les trouverez le soir à l'étape, je m'en charge. Qu'en pensez-vous, Fauvière? Pascal ne demandait pas mieux. Mais les deux femmes se regardaient hésitantes, troublées par la perspective d'actes aussi téméraires. On eût dit qu'on leur proposait quelque aventure extraordinaire, hors des conditions possibles de la vie. Une de ces expéditions lointaines et périlleuses dont il n'est pas sûr que l'on revienne jamais. Ce vague projet, cependant, mûrit dans leurs esprits. Brigitte et Madeleine s'y accoutumaient, glorieuses tout au moins qu'on les eût jugées dignes de l'accomplir. D'un ton dégagé, elles annonçaient à leurs amis : Ah, vous savez, nous partons pour Dieppe à bicyclette. Les hommes, de leur côté, compulsaient les cartes et les guides. Peu à peu, on allongea l'itinéraire jusqu'à décider, pour le premier jour, la visite des ruines de Jumièges et le coucher à Caudebec, pour le second, le trajet de Caudebec à Velette, et de là, pour le troisième jour, à Saint-Valéry, Veul et Varengeville, le long de la mer. Mais à quoi n'eussent-elles pas consenti dans leur ardeur croissante? Des jeunes gens furent accolés. On serait une dizaine. La caravane se formerait à la station de Jumièges. Et alors, en route.